Salut, salut, bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la ligne. Oui, j'ai une voix un peu grippée, on devra faire avec aujourd'hui. Heureusement, j'ai des collègues qui vont m'aider à jaser. Et un de ces collègues-là, ben, c'est bien sûr Hugues Léger. Hugues, comment te portes-tu en espérant que ta voix est largement supérieure à la mienne?
Ça devrait aller, Alex. On va t'amener jusqu'à la ligne d'arrivée, je te le promets. Ça va super bien. Écoute, je me suis levé très tôt dimanche matin, mais j'ai été content de me lever tôt ce dimanche pour trois raisons. Léla Fernandez, Gabriel Diallo et Gabi Dabrowski nous ont fait honneur hier. Trois victoires canadiennes la même journée. Quel dimanche pour le tennis canadien. Puis je suis content d'avoir cette émission-là aujourd'hui pour parler
de ça. Et c'est drôle parce qu'on se disait récemment que, bon, en termes de résultats, l'actualité tennis canadien était bon, un peu plus tranquille. Et là, tout est tombé la même fin de semaine. Même au moment de l'enregistrement lundi matin, ben, Félix, il a gagné son match aussi. Alors beaucoup de choses qui vont bien. Je ne perdrai pas trop de temps, Hugues, dans les salutations. Je voulais juste faire un petit message à un autre podcast qui est sur les ondes de BPM avec nous, parce que vous savez qu'on est sur toutes les bonnes plateformes de balado, incluant BPM Sport. Mais j'ai entendu ce week-end le podcast de Greg Langto sur la Formule 1 et je veux les saluer. C'est vraiment, vraiment très bon qu'est-ce qu'ils font. Ça ressemble étrangement à notre formule dans la façon de faire. C'est très dans la discussion. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Alors, je l'en profite pour
faire un...
Oui, exact. Alors, message fait, coup de chapeau à Greg Langto. Et on ne perdra pas trop de temps parce qu'on a un invité de marque aujourd'hui, Hugues, et je ne vais pas le faire trop attendre. Il est venu à quelques reprises avec nous au podcast. On l'a eu en entrevue à la radio également. Le papa et entraîneur de tennis, M. Jorge Antonio Fernandez, le père de Léla Fernandez. Bienvenue au podcast Sur la ligne une fois de plus.
Merci beaucoup, les gars. C'est un honneur d'être ici avec vous, spécialement après une grande fin de semaine de victoire de Léla, de Gab, de Diallo et de Gab Dabrowski. Et maintenant, merci, bien sûr, avec Félix.
Et avant qu'on tombe dans le résultat, l'évaluation du tournoi et tout ça, je veux qu'on parle au papa. Comment on se sent? Parce que ça fait quand même quelques fois qu'elle soulève un trophée, la troisième en fait. Comment on se sent quand la petite fille, Léla, la joueuse qu'on a vu grandir toute sa vie, soulève encore un trophée? Est-ce qu'on est encore capable de... Est-ce qu'on réussit à le réaliser? Est-ce qu'on s'habitue à ça? Je ne sais pas.
Non, on ne s'habitue jamais à ça. Honnêtement, pour moi personnellement, c'est toujours... J'essaie de toujours trouver... la fierté, disons, le sentiment d'être content en vivant moment par moment. Mm-hmm. Ne pas donner plus d'expérience à un moment ni à l'autre. Donc, avec elle, je vois son sourire, je la vois grandir à la télévision. Tu sais, moi, comme je dis tout le temps, n'oublie pas, hein, j'étais le premier à te tenir dans mes bras. Donc, à un moment donné, j'ai dû faire la décision très difficile de la partager avec le monde entier. Et maintenant, je la vois grandir, une jeune demoiselle de 21 ans. Et à 21 ans, elle fait quelque chose de spécial qui est de gagner trois trophées, trois années consécutives. Et ça donne un bon résultat aux amateurs canadiens. Et bien sûr, moi, comme père, je ne peux pas être plus fier qu'elle.
Bien, félicitations d'abord et avant tout à toute la famille, incluant Léla, parce que je le dis souvent, moi je travaille avec des athlètes à l'année longue. C'est vrai que les athlètes sont la pièce centrale, mais tu ne peux pas performer à ces niveaux-là si tu n'es pas bien entouré et si tu n'as pas du monde qui te supporte autour de toi. Alors, félicitations à tout l'entourage. Et puis, Léla, ben, tu sais, vraiment, c'est une fille qu'on adore au podcast. Elle est venue nous voir à plusieurs reprises. Je ne l'ai pas vue grandir depuis aussi longtemps que vous, mais je la connais quand même depuis très longtemps chez les juniors. Et puis, ça me fait toujours plaisir de la voir évoluer, non seulement comme joueuse, mais comme personne également. Hugues, je vais te laisser enchaîner pour quelques questions, si tu veux, questions qu'on n'étire pas trop ma voix.
Il y a un élément qui m'a touché dans son discours d'acceptation du trophée hier. Elle a beaucoup parlé des deux années plus difficiles ou presque deux ans plus difficiles là, qui se terminent maintenant. On peut le rappeler, elle était à la 96e place mondiale au début du mois de juillet. Elle sort ce matin à la 43e. Donc, on voit que la deuxième partie de l'année est fructueuse pour les là. Mais parle-nous un peu des deux dernières années avec des hauts, des bas. Comment vous avez vécu ça et comment on arrive aujourd'hui, là, le 16 octobre, avec une victoire, avec un troisième titre?
Bon, c'est une excellente question. Et bien sûr, ça pas, le chemin n'a pas été facile, très, très difficile. On se l'attendait, mais on se l'attendait pas que ça soit si difficile que ça.
Ouais.
Donc, il y a toujours, elle était très jeune quand elle est rentrée. Donc, on savait qu'elle doit apprendre beaucoup plus de qu'est-ce qui s'en vient. Mais les hauts et les bas, nous autres, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'aller chercher des coachs, non, entre guillemets, professionnels qui ont seulement entraîné dans le monde de tennis. Et bien sûr que moi, je prends la plus grande responsabilité de cela, c'est parce que moi, j'ai fait la décision d'aller chercher certains entraîneurs que au bout de la ligne n'ont pas fait un bon fit avec nous, okay? D'un point de vue tennistique. Parce que d'un point de vue de personne, tu sais, on est une famille assez facile. Lorsqu'on rentre dans notre entourage, on se rend compte que oui, Jorge n'est pas si mal que ça. n'est pas si fou que ça. Et que la famille est vraiment une famille qui travaille très fort, qui aime beaucoup la vie, qu'on aime rire, qu'on est comme n'importe qui d'autre. Donc, il y a une perception qui est brisée. Par contre, d'un point de vue sportif, on a cultivé un style qui est différent à la norme.
Oui.
Et la raison pourquoi on a fait cela, c'est parce que Leila, son gabarit est différent que la norme. Donc, on n'a pas eu vraiment d'option. Donc, d'aller chercher un entraîneur qui connaît le monde d'être petit n'a pas été facile.
Je vais enchaîner sur ça parce que c'est un sujet qui me fascine avec Leila. Justement, ce choix tactique de rester les deux pieds sur la ligne du fond et de contrôler les missiles qui lui sont envoyés par des joueuses comme Sabalenka, comme Haddad Maia, comme plein d'autres filles qui jouent à un tennis en puissance vraiment direct. Dis-moi d'où c'est venu ce choix tactique que Leila va se camper sur la ligne et jouer sur les angles et frapper la balle très tôt dans le rebond.
Moi, ça n'a pas été compliqué. Moi, je suis petit aussi. Okay? Donc, ça commence de là. Mais quand on analyse tous les autres sports, on va prendre par exemple le hockey. Okay? Pourquoi est-ce que Gretzky rentrait et se plantait en arrière du but? Pourquoi? Il était dans une zone où on peut dire que ce n'est pas une zone offensive. Mais il a commencé à créer quelque chose de nouveau pour lui-même. Pourquoi est-ce que Crosby, à sa taille, il rentre dans les coins? J'avais aucune idée quand je le voyais. Il n'est pas si grand que ça, mais il rentre dans les coins quand même.
Ouais.
OK. Mike Tyson, quand on le voit, c'est un gars. Il est énorme, mais dans le monde de boxe, il est 5 pieds 10.
Exact.
Tout le monde a 40 livres de plus. Pour avoir du succès, on n'a pas de choix mais d'être offensif. Et pour être offensif, on doit rentrer dans une zone où le monde qui est grand ne se sent pas confortable. Donc, on a décidé de rentrer vers eux et d'essayer d'aller, pas agresser, mais être offensif, qui est différent. Parce que la plupart du temps, j'entends le monde dire « Oh, vous êtes très agressif ». Non, on n'est pas agressif, on est offensif. Mais on joue la défense d'une manière très agressive. Quand on défend, on défend très agressivement. Donc, avec cela, ça a pris beaucoup de temps à convaincre les là, parce que bien sûr que la norme et le standard de jeu, c'était reculé. Parce que les personnes sont plus grandes, elles ont besoin plus de temps à se préparer parce qu'elles ne sont pas aussi vite que les là ou les personnes qui sont plus petites. Donc, ça a tout commencé en étudiant tous les autres sports, en m'étudiant moi-même comme joueur de foot, de soccer, et voir comment est-ce que je pouvais lui enseigner à être un nouveau modèle de tennis au Canada. Parce que ça existe dans d'autres parts du monde, mais ce n'est pas très bien reconnu et pas très bien vu en Amérique du Nord parce que la plupart du monde est très grand. Donc, ça a commencé comme ça, de cette façon-là.
Et est-ce qu'elle était dure, tu sais, vous dites qu'elle était dure d'une certaine manière à convaincre. Et des fois, c'est normal de voir des passages à vide quand on change des enchaînements tactiques ou des façons de jouer parce que, bon, les athlètes de haut niveau, c'est des machines de répétition. Alors, est-ce que ce changement-là peut avoir expliqué au début de la saison des éléments peut-être où ça a été un peu plus compliqué parce qu'on changeait les schémas de jeu?
C'est sûr, à 100%. On a, malheureusement, comme je l'ai dit, c'était mon erreur. On a engagé un coach espagnol. Et bien sûr, on connaît les Espagnols, ils sont plus en arrière de la ligne, non? À la Soribes-Tormont, à la Nala. Mm-hmm.
Ouais.
Et bien sûr, j'ai fait confiance. Et on s'entend très bien, on s'entend excellent, mais ça n'a pas été une bonne décision. Donc, Leila est devenue une joueuse très normale, régulière, en arrière de la ligne de fond. Donc, de la convaincre de son style de jeu, on a dû passer à travers cela, par contre. C'est parce que quand moi, j'insiste qu'elle rentre dans le terrain, qu'elle aille faire ses volets, c'est pas parce que je veux la mettre dans une situation de danger, c'est parce qu'elle ne se rend pas compte que son timing, sa lecture de jeu est phénoménale.
Ouais.
Elle fait des choses que c'est difficile d'enseigner. Donc, je veux maximiser cela en la forçant à rentrer. Donc, ouais. Ça l'a pris un peu le commencement de l'année pour qu'elle puisse analyser et dire, bon, quand je reste en arrière, je perds presque chaque fois. Et quand je rentre, je ne gagne pas tous les points, mais je gagne le match.
Exact.
Donc, cas, c'est ça que ça l'a pris.
Elle a des mains incroyables. J'ai l'impression que le double lui sert aussi dans des situations de jeu à mi-terrain ou au filet, dans des situations un peu inconfortables, je vais dire comme ça, qui arrivent souvent en double. Elle réussit souvent à bien tirer son épingle du jeu dans des moments comme ça.
Absolument.
Auré, parle-nous du fameux huitième jeu du deuxième set, là, parce que c'est là pour moi que ça s'est joué. Leila sauve six balles de break à 4-3 après avoir mené, je crois, 3-0 au début du set. On voit que Siniaková est blessée. Parle-moi un peu de ce jeu-là qui est un peu le pivot du match, selon moi.
Tout allait contre Leila à ce point-là parce que Siniaková était dans une remontée incroyable.
Ouais.
Elle avait les deux jambes. Tapé. C'était, mm-hmm. C'était incroyable. Et ça va contre Leila mentalement, parce que Leila, elle est une personne très gentille. Donc, elle veut jamais faire mal à personne. Ouais. OK? Moi, personnellement, comme ex-joueur, si je te vois avec un tape sur le genou droit, je vais te faire absolument tourner sur ton genou droit.
Certain, je comprends.
OK? Donc, mais Leila, elle n'est pas comme ça. Donc, moi, dans ma tête, je disais, à 4-0, je disais, oh, non, deux tapes, un tape, c'est le deux, c'est impossible, elle va devenir gentille. Donc, j'espérais que dans ce jeu très important à 4-3, elle puisse commencer à se concentrer sur la balle. Dans nos entraînements, on fait les entraînements assez compliqués, assez difficiles, où il arrive un moment où tu es en train de te battre contre tes propres émotions. Et c'est là où moi, j'utilise un petit truc mental où je dis, on se concentre seulement sur la balle. Oublie ton adversaire, oublie qu'est-ce qui est en train de se passer, concentre-toi seulement sur la balle, parce qu'au bout de la ligne, le tennis, c'est une relation de toi, ta raquette et la balle. C'est tout. Garde ça simple. Donc, moi, j'espérais qu'elle puisse se rappeler de cela. Et bien sûr, elle l'a simplifié dans sa tête. Elle m'a dit qu'une chance, grâce à ce petit truc-là, elle a pu survivre le moment. Et après ça, exploiter la frustration de Siniaková. Ouais. Parce que elle arrivait à un moment donné où Leila, à 5-5, elle faisait des désastres. T'sais? Elle sortait un service qu'on ne s'entend pas,
exact.
Qu'elle puisse le faire, puis elle finissait. Donc, Siniaková était maintenant frustrée. Et nous, dans nos entraînements, quand je lui dis, quand tu vois une fille, une joueuse frustrée, c'est le moment de sortir ton meilleur service, c'est le moment de sortir ton meilleur jeu. Donc, sa force mentale, la répétition de ces entraînements où presque 99 des joueurs arrêtent les entraînements.
Ouais.
Leila adore jouer au tennis. Et donc, elle adore les moments de difficulté parce qu'elle se pousse mentalement. Et une leçon qu'on a toujours eue depuis qu'on a commencé quand elle était beaucoup plus petite qu'elle est maintenant, c'était, on disait toujours, où est-ce que le cerveau décide, le corps va suivre. Donc, c'est toujours une décision mentale. Et elle le fait très, très bien, beaucoup mieux que la plupart des joueurs que j'ai eu la chance de jaser avec dans le passé.
Tu parlais du double, et il ne faut pas oublier que Sinakova est une des meilleures joueuses de double aussi. Au monde. Là. Ouais. Elle fait partie de la paire avec Krejcikova. Ouais, Jurgen, tu voulais ajouter quelque chose?
Oui, écoute, Sinakova frappe une balle à plat incroyable.
Oh, oui.
Elle sait jouer au filet. Elle a sorti une volée que je ne pouvais pas croire que peut-être une personne dans 50 ou 60 peut sortir une volée comme ça. Elle est une joueuse d'expérience. Elle est... complètement en confiance. Donc, avec cela, c'est incroyable. Elle a fait quelque chose de spécial.
Quelques petites questions sur le tournoi, encore une fois. J'ai cette tendance-là, en tout cas, mes collègues au podcast vont dire que souvent, je mets mon drapeau canadien trop fort sur mon dos. Et une des choses qui est revenue souvent, je regardais les tableaux de Leila au courant de la saison, puis je me disais, OK, ben là, dernier tour des qualifications, elle affronte une ancienne numéro 1 mondiale. Elle affronte une top 5 mondiale. Alors, bon, là, vous voyez dans ce tournoi-là, vous vous dites Azarenka au premier tour. Tu dis, vous vous dites quoi comme équipe? Est-ce que vous vous dites, oh mon Dieu, est-ce qu'on n'aurait pas pu avoir un tour facile pour une fois ou un tournoi, un premier tour un peu plus prenable?
Pour qu'elle puisse devenir professionnelle, une des choses que j'ai faites depuis le commencement, c'est de rêver avec elle. Et quand je dis rêver, tous nous autres, on a rêvé à un moment donné où on se trouve, tu sais, dans la cour de la maison, dans la cour de l'école, à la récré, dehors en train de jouer, et on pense que c'est un moment spécial dans le monde de sport, dans le sport qu'on aime. Tu sais, donc, depuis qu'elle est petite, je dis, hey, écoute, un jour tu vas jouer contre les grandes. Un jour, tu vas dispenser ceci. Un jour, tu vas faire cela. Donc, ça nous a amené à ce jour où c'est la réalité. Donc, maintenant, c'est vraiment de retourner dans le passé et de dire, tu te rappelles pas que je t'avais dit que...
C'est ça que tu
un
voulais.
Jour d'aller, c'est ça que... Et c'est exactement ça que tu visualisais. Donc, ça n'a pas été quelque chose de trop difficile à la convaincre, parce que aussi, quand on est mal classé, on s'attend à avoir une top 20 dans les premiers deux tours. Donc, écoutez, les coachs là, qui sont en train d'écouter, si vous ne préparez pas vos joueurs d'aller jouer contre une top 20, vous ne faites pas votre travail, parce qu'un wild card, tu vas sûr et certain te rendre compte que tu vas voir quelqu'un qui est bien classé. Si tu rentres avec un 120 au monde, tu vas rentrer contre quelqu'un, tu vas jouer contre quelqu'un qui est 20e, 30e, 40e. Donc, Azarenka, on a eu la chance c'est une des raisons pourquoi je suis venu ici à Floride, c'est pour pouvoir nous entraîner avec les professionnels qui sont en train de chercher des sparring. Donc, on a fait cela, ça lui a aidé énormément. Donc, la conversation est un peu plus facile. Même moi, comme entraîneur et comme père, là, je disais, voyons donc, on a besoin d'un petit peu de chance là, à un moment donné. J'ai besoin d'un tableau un petit peu plus relax à Azarenka. On était, je pense que c'était au US Open. Puis j'étais avec mon autre fille, Bianca, et Leila, sur le court. Puis je disais, regarde comment elle s'entraîne. Regarde le professionnalisme. Regarde comment elle fait ses répétitions. Regarde comment elle n'est pas contente sur quelque chose qui est déjà parfait. Et c'est pour ça qu'elle a été championne deux fois de Grand Chelem, mais c'est pour ça qu'elle a eu une carrière incroyable. Donc, je pense que ça résonne avec Leila. Et elle était beaucoup plus prête de ce que le pointage a démontré dans le premier set.
vous nous révéliez hors d'onde que Léla n'aime pas trop regarder les tableaux d'avance, mais que vous, vous le faites parce que c'est votre travail de le faire. Et là, quand on regarde le tableau, on se dit, bon, Azarenka au premier tour est probablement deux des plus beaux espoirs du tennis après ça qui suivent, deux filles tellement talentueuses. Vous, vous vous dites quoi quand vous regardez le tableau?
Et pour ajouter, c'était aussi de qu'elle allait jouer contre Mira. Elle a perdu contre Mira à Madrid.
Oui. Mm-hmm.
Ça a été compliqué. Parce que ça, c'est vraiment... C'est pas seulement le fait qu'elle a perdu contre elle. Elle a perdu contre l'espoir.
Exact.
À 16 ans. La défaite a donné tellement de... La défaite contre Andreeva lui a donné tellement de confiance à Mira qu'elle a fait comme ça après ça. Donc, c'est toute une psychologie très compliquée. Je vois ça et je dis, oh boy! Qu'est-ce que c'est quoi mon speech? qu'est-ce que je veux dire pour la motiver? Mais je l'ai préparé. Et bien sûr, moi, j'avais un petit truc aussi quand on a commencé dans le junior. Et c'était de ne pas regarder non seulement le tableau, mais ton adversaire. Donc, moi, ce que je lui ai toujours dit, pour qu'elle puisse se rester concentrée sur ses objectifs de match, concentré sur qu'est-ce qu'on a fait dans les entraînements et le répéter dans le match, c'était tu ne joues pas contre, dans ce cas-ci, Mira. Tu joues contre Federer. OK. Donc, si tu sais que tu dois jouer contre Federer, qu'est-ce que tu dois faire? Je dois amener... Elle me répond, je dois amener mon meilleur jeu. Je dis, excellent. Quoi d'autre? Je dois amener... beaucoup de mentalité positive parce que je veux jouer contre Roger. Mm. Je dis, exactement. Je dis, et n'oublie pas ton sourire parce que c'est pas tout le monde qui va avoir la chance de jouer contre Federer. Donc, t'es chanceuse. Donc, ça, c'est vraiment pour essayer. Moi, je crois beaucoup dans la psychologie de l'athlète et c'était une manière de pouvoir se convaincre de quelque chose de différent, minimum au commencement du match pour qu'elle puisse rentrer dans son rythme. Parce que aussitôt qu'elle est là, rentre dans son rythme, elle est dure à battre. Elle est très dure à battre. Parce que même si tu es en train de perdre contre Azarenka, elle n'avait pas encore rentré dans son rythme. Mais aussitôt qu'elle a commencé dans son rythme, je n'étais pas inquiet. C'était la même chose contre Andreeva. Après ça, c'était Frujovitova. Ce sont des excellents espoirs, absolument 100%, mais sont tous pour moi les mêmes styles de joueuses. Mm. Okay? Ça reste sur la ligne de fond, ça lève un petit peu la balle, ça attaque en parallèle, mais il n'y a pas beaucoup de créativité, donc ça veut dire qu'il ne va pas avoir beaucoup de surprises.
Ouais.
Elles sont jeunes, donc elles n'ont pas encore développé un grand service. Donc, on n'a pas cette peur que le service, on va se faire, tu sais, à la Sabalenka, ça va rentrer par tous les coins.
Ouais.
J'étais quand même confiant que si on pouvait passer les premiers jeux et être assez proche, Léla allait prendre son rythme pour pouvoir continuer.
Je sais que Hugues a une question un peu particulière. Moi, j'en ai une dernière sur le tournoi. Et vous n'êtes pas obligé de tout nous révéler, mais ça a été quoi les premiers mots échangés après entre vous et votre fille quand vous avez eu l'occasion de parler après le tournoi?
Ouf. Ben, c'est spécial. J'ai dit félicitations. Je dis pas ça souvent du tout. Je dis félicitations parce que tu as fait quelque chose de vraiment, vraiment spécial.
Ah oui.
Et ce que tu as fait de spécial, c'est que tu as vraiment persévéré pendant les 2 années quand tout le monde était contre toi. Quand tout le monde disait « tu ne vas jamais avoir un autre titre, tu es trop petit, tu n'as pas de pouvoir ». Ton père est comme ci, ton coach, l'autre coach est comme ça, qu'est-ce qu'il fait en train d'engager ceci? Toi, tu es resté sur ton chemin. Et maintenant, tu viens de prouver à beaucoup de monde que tu n'es pas facile à craquer. Et c'est ça, je te félicite, je suis très fier de la personne que tu es, de tes valeurs que tu amènes dans le jeu, parce que ce sont des valeurs incroyables. Et moi, je sais ça. Parce que quand on voit les petits-enfants qui veulent être autour d'elle, ouais. ça veut dire qu'elle est une excellente personne.
Ouais.
Parce que ce n'est pas seulement son jeu, ce sont la manière qu'elle se présente.
Quand elle n'est pas mélangée pour Coco Gauff.
C'est ça, exactement.
Mais c'est ça. Elle projette beaucoup de positif tout le temps. Elle est là. C'est quelque chose qui rayonne chez elle beaucoup. T'sais, ça n'a pas l'air forcé. On voit que c'est sa personnalité. C'est pour ça qu'elle est si aimée que ça sur le
site. Une ambassadrice extraordinaire. Puis on le sait déjà depuis. T'sais, c'est fou le niveau de maturité qu'elle a en entrevue. Puis comme je dis, moi, j'ai fait des entrevues avec elle depuis qu'elle avait peut-être 13-14 ans. Puis tu sais, elle. D'une certaine manière, elle a du Félix Auger-Aliassime dans le nez, même s'ils ont à peu près le même âge, parce qu'ils ont la même maturité ou presque, puis ils ont la même sensibilité en entrevue, puis c'est pas pour rien que c'est une ambassadrice déjà pour le sport absolument extraordinaire, puis je le dis pas pour vous faire plaisir, là, M. Fernandez, et tu sais, on en parle souvent à quel point elle a un charisme complètement fou, cette fille-là, puis vraiment, tu sais, au-delà de ce qu'elle fait sur le terrain, elle est vraiment une ambassadrice extraordinaire.
C'est très gentil, merci beaucoup.
Hugues, je te laisse aller avec ta question de gars de marketing.
J'ai une question un peu plus légère, Henri, mais je sais que vous en avez parlé à quelques reprises. Les chaussures de Leila. Elle a fait le choix d'une chaussure Puma qui, je crois, est un modèle de basketball. Parle-nous un peu comment elle est arrivée à faire ce choix-là. Puis visiblement, ben, ça fonctionne bien pour elle en ce moment, ces Puma de basket.
Oui, c'est sûr, c'est sûr. OK, premièrement, je dois dire ceci. On n'est pas en train de dire au monde d'aller chercher des jouets de basket pour des chaussures de basket pour aller jouer au tennis, s'il vous plaît. Je n'ai pas besoin de recevoir plus de messages que j'en ai déjà reçus. Okay? C'est aussi simple que, premièrement, on a, d'un point de vue de business, d'affaires, okay? Nous autres, on a notre commanditaire qui est bien sûr Lululemon.
Oui.
Lululemon n'a pas un soulier de tennis.
Exact.
C'est OK. Bon. On a des choix dans le marché, certains choix, parce que bien sûr, on ne peut pas aller puis chercher des Nike parce que c'est trop compétitif avec Lululemon, on s'entend. Oui. Donc, il est arrivé un moment, Leila, elle a des pieds assez particuliers pour le monde de tennis, entre guillemets. Elle a joué beaucoup de sports, elle. Moi, ça, c'est une des choses que moi, j'ai faites quand elle était petite, c'est pour devenir une athlète complète. J'ai décidé parce que c'est ça qu'elle voulait faire, j'ai dit, viens jouer d'autres sports. Entre autres, le basket, le volleyball et le foot. Okay. On a des souliers très confortables dans le foot. On a des souliers très confortables dans le basket. Mm. On a des souliers très confortables dans presque tout. Dans le volley, c'est des souliers assez particuliers aussi. Donc, à cause des petites pattes de Leila, qui sont très osseuses, okay, j'ai dit, écoute Leila, tu n'as rien à perdre. Okay? Tu n'as absolument rien à perdre. Et parce qu'on n'a pas vraiment un contrat avec un commanditaire de chaussures, c'est difficile d'aller chercher des chaussures un petit peu plus custom pour ses pieds.
Ouais.
C'est vraiment ça la raison. C'est pas parce qu'on veut être flash. C'est pas parce qu'on veut être des rebelles dans le sport. Mm. On a vraiment pas un grand plan, nous autres, les Fernandez. Des fois, là, on fait juste se réveiller et dire hey, ça a l'air comme une bonne idée. J'aimerais ça avoir une poutine et un burger aujourd'hui.
Feel good, play good.
Feel good, play good.
C'est bon ça.
Exactement ça. Donc, on est rentré dans le Puma parce que moi, quand je jouais, je portais les Puma King, qui étaient des souliers incroyablement confortables, un cuir fabuleux. Je me sentais incroyable comme personne, comme joueur de foot, et je faisais des choses que moi, je pensais que c'était merveilleux. Moi-même. Puis bon, donc on a essayé des différentes chaussures, juste pour le fun, sans d'aller. Puis moi, je le regarde, puis comme j'ai toujours été un petit peu plus rebelle, j'ai dit, ben, si tu veux, porte-les. C'est dit, il n'y a pas de règle dans le tennis qui dit que tu ne peux pas porter ça. C'est aussi simple que tu ne peux pas laisser des marques.
Exactement.
C'est ça.
C'est ça.
Donc, si ça te tente, vas-y. Ayant dit cela, elle a adoré le confort des souliers. Puis aussitôt qu'elle est rentrée, on n'oublie pas qu'elle est là. Elle est très mobile, elle est très vite et ses souliers ont aidé beaucoup à sa mobilité, à son agilité. Et parce que ce sont des hardcore shoes, hein, elle arrête assez bien. Okay. Ça a été la seule et unique raison. Mais maintenant, on a commencé quelque chose. Puis bon, on doit avoir des conversations parce que je m'attendais qu'elle allait porter une coupe de match. Puis ça finissait là. Mais Léla, je vais vous dire, là, elle a une tête dure. Hein? Donc, pour être dans ce sport de tennis, je pense que tout le monde a besoin d'un petit peu de tête dure. Puis ouais. Maintenant, c'est difficile de l'enlever de ces souliers-là. Mais ça ne va pas être le futur. Ça ne va pas être le futur. Ça, c'est 100%. On va seulement finir l'année avec cela, puis on va voir qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine.
Et qui sait, peut-être qu'effectivement, elle partira une nouvelle mode et vous allez recevoir encore plus de messages.
Oui, mais pour tout le monde qui est en train d'écouter, elle est en train de travailler sur un projet très, très spécial qui devrait être dévoilé pour les Olympiques de l'année prochaine.
Bon, ben, allez-vous.
Je ne peux pas dire plus que ça parce que je m'aime beaucoup moins que vous autres.
Mais en tout cas, ben, vous reviendrez nous en parler. Ça nous fait toujours plaisir de faire sa promo. Elle est toujours incroyable avec nous. Et puis, tu sais, vous parlez de ces gens-là qui ont douté d'elle. Ben, je peux vous dire une chose au podcast ici. Ça n'a pas vraiment été le cas. On est fair, je pense, dans nos analyses. Mais je pense qu'on la voit encore très bien comme une potentielle future de grand championne de Grand Chelem. Puis, on n'est pas gêné de le dire. Puis, c'est drôle que vous ayez parlé de, bon, quand elle avait perdu contre Mira, parce que dans le fond, elle a goûté un peu à sa propre médecine. Mm. Parce qu'elle, depuis qu'elle est tout jeune, ben, elle en fait voir de toutes les couleurs aux joueurs expérimentés. Alors, et puis là, ben, elle continue. Elle vient de mettre la main sur un troisième titre sur le circuit de la WTA. Ça peut paraître petit, mais gardez en tête que l'essentiel des joueurs n'en gagneront même pas un. Déjà, si vous faites une finale et elle a 21 ans, elle en a trois. Déjà, c'est absolument phénoménal comme début de carrière. Ah oui, puis aussi une finale de Grand Chelem au US Open, juste comme ça.
Et elle n'a que 21 ans.
C'est ça. Et moi, j'aimerais ça ajouter quelque chose.
Mais oui.
Et un quart de finale à Roland-Garros.
Absolument.
Et un quart de finale à Roland-Garros.
Qu'elle aurait pu gagner.
Que beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueuses de 28 ans aimeraient ça dire, j'ai une quart de finale de Roland. Ouais. Donc, non, la petite a fait ça tellement bien. Nous autres, on est tellement fiers de toujours représenter, bien sûr, le Canada, bien sûr, le Québec, parce qu'on vient du Québec. C'est quelque chose de très chaleureux dans notre âme, dans notre esprit. On espère de toujours continuer à représenter notre pays, bien sûr, notre belle province, à 100%. Je suis très, comment dire, malgré qu'on est ici aux États-Unis, on est ici à cause du travail. On estime notre peuple beaucoup plus de ce que vous pouvez vous imaginer. Donc, votre support quotidien, votre croyance en nous comme équipe, votre croyance en ma fille, c'est vraiment admirable. Et je vous dis merci beaucoup de tout mon cœur.
Ça nous fait plaisir. Et puis, c'est aussi un produit, façon de parler. Elle aura passé quand même dans les rangs de Tennis Montréal, Hugues, dont tu es maintenant le directeur et tu contribues à développer les talents. Et puis, ben, c'est le fun de voir qu'elle est là. Ben, il n'y a pas si longtemps, était assis sur un petit terrain de tennis avec Gabriel Diallo. Et puis, ben là, les deux sont champions la même journée. C'est quand même incroyable.
Absolument, 100%. C'est vraiment une formule très spéciale. Je pense que ça commence avec des personnes comme Hugues, qui croient beaucoup dans ce qu'on est en train de faire, qui croient beaucoup dans l'espoir de ces jeunes athlètes-là.
Monsieur Fernandez, merci infiniment de vous être joint à nous pour une fois de plus, pour une autre entrevue. Encore une fois, vous êtes invité quand vous voulez. Vous viendrez nous parler de votre projet secret des Olympiques. On va vous attendre. On a hâte d'avoir les nouvelles. Dites nos salutations à Léla aussi. Puis nos félicitations de notre part à elle, mais également à toute la famille et toute l'équipe.
Merci beaucoup. C'est très gentil, les gars.
Un plaisir.
Merci.
Bye-bye. Merci beaucoup, M. Fernandez. Hugues, si tu le veux bien, ben, on va faire une courte pause. Et puis, ben, au retour, on va parler de Gabriel Diallo et également de Gabriela Dabrowski. Et peut-être pas aussi, pourquoi pas, d'un peu de Félix Auger-Aliassim.
Profitez d'un rabais de 30% sur votre deuxième nuitée dans une suite à l'Hôtel Montville. Une magnifique vue du centre-ville ainsi qu'un séjour mémorable vous y attendent. Rendez-vous sur hotelmonville.com pour avoir accès à cette offre. L'Hôtel Montville est le choix idéal pour les voyageurs d'affaires en raison de son emplacement central à Montréal, de ses chambres modernes et équipées de tout ce dont vous avez besoin pour combiner travail et loisirs. Profitez de l'offre petit déjeuner et stationnement pour un séjour en toute tranquillité. Rendez-vous sur hotelmonville.com.
De retour au podcast, sur Radio Podcast, sur la ligne Alex Régimbal, en votre compagnie avec une voix un peu grippée, c'est pas facile, mais on va y arriver. Alors Hugues, si tu le veux bien, je vais te passer le crachoir, parce que, bon, on vient de parler avec le père de Leila Fernandez pour parler de cette victoire à Hong Kong. Mais ce n'est pas le seul résultat incroyable qu'on a eu ce week-end. Je veux que tu me parles de Gabriel Diallo, qui continue de prouver qu'il pris la bonne décision de passer chez les pros.
Ben, Gabriel a pris effectivement la bonne décision et la preuve, Alex, ce matin, il est le joueur du top 200 avec la plus forte progression au classement ATP, plus 34 places, ce qui l'amène à la 130e place mondiale ce matin. Gabriel avait gagné, on s'en souvient, un ETF 25 000 à Montréal au printemps. Il a gagné Granby il y a un an, donc le Challenger, il y a un peu moins qu'un an. Il y a un an environ à Granby. Et là, il gagne un Challenger de premier plan à Bratislava. De belle façon, 6-0, 7-5, un match bien maîtrisé. Gabriel est en route pour le top 100 et ça va arriver plus vite qu'on le pense. Moi, je pense qu'on a un autre grand joueur et ses performances en Coupe Davis vont lui donner aussi beaucoup de confiance. Je pense que c'est une année exceptionnelle pour Gabriel Diallo en ce moment. C'est un breakthrough pour lui en ce moment.
Mais écoute, c'est phénoménal ce qu'il réussit à faire. Et veux-tu nous parler de son adversaire de deuxième tour, celui qui l'a battu?
Oui, bien écoute, il sort Dominic Thiem quand même, champion de Grand Chelem. Bon, c'est plus le Dominic Thiem là, d'il y a 5-6 ans, alors qu'il faisait la pluie et le beau temps. On le voyait comme un potentiel numéro 1, finale de l'ATP. Il fallait quand même le faire. Il a eu des bonnes performances quand même cette année, Thiem. Donc, encore une fois, c'est un match qui peut marquer d'une pierre blanche. Il bat un champion de Grand Chelem quand même, qui est sur le retour. Un très, très bon joueur. Donc, c'est un autre tournoi exceptionnel. Et je pense que Gabriel Diallo n'a plus peur de personne. Il a battu Lorenzo Musetti, on s'en souvient, à la Coupe Davis. Donc là, il commence à enchaîner sur son tableau de chasse des très, très gros noms. Donc, ça va très bien pour Gabriel.
On jase. Est-ce qu'en Australie, il va rentrer dans le tableau principal directement?
Je vais faire une prédiction folle. Je pense que oui, Alex.
Moi,
je
pense. Il n'est pas loin, tu sais. Ouais. Évidemment, il faut être à l'intérieur du top 120 et même mieux, ouais, là, parce qu'il y a des wildcards qui sont donnés. Puis
généralement, le cut-off du classement, c'est 104. Okay? Exact. Donc, il lui reste là, à peu près 25 positions à aller chercher. C'est très possible. Très possible de la manière qu'il joue en ce moment.
C'est très possible, il n'y a pas de points à défendre.
Exact. C'est tous du bonus. Tous les points à chaque semaine, c'est des points qui font monter au classement.
Alors, un titre à Bratislava, et ça me fait plaisir de le rappeler, mais c'est un autre produit de tennis Montréal.
On était pas mal fiers ce matin. Là. Je parlais avec le directeur technique, puis il disait, moi, je le vois top 50, Gabriel. Et je répète que souvent, les joueurs qui ont un très fort potentiel vont se révéler entre l'âge de 5 ans et 10 ans avec notre équipe en ce moment. Donc, effectivement, on est très fiers. Puis j'ai partagé une photo ce week-end où il y avait dans la même cohorte, Gabriel Diallo et Leila Fernandez qui jouent ensemble.
Et là, mine de rien, on jase. Quand tu regardes cette année, il a battu Dominic Thiem, ancien champion de Grand Chelem. Ouais. Il a battu Lorenzo Musetti, qui n'est pas un joueur... le dernier venu, comme on dit, c'est très solide. Il a fait à Toronto, on se rappelle, il avait battu Daniel Evans, qui était excellent au Canada. Okay. Il avait fait une belle performance contre Alex de Minaur également. Alors, commence à avoir quelques joueurs sur son tableau de chasse intéressant.
En effet, je pense que tout est possible pour Gabriel maintenant. Physiquement, il est bien. Il y a un jeu bien adapté au tennis actuel. Très, très bon service. Très athlétique aussi. Très prometteur pour Gabriel Diallo.
Parlant de promesses remplies, il y en a une autre qui fait de l'excellent travail. Et je le dis souvent, on n'en parle pas assez souvent du double, mais Gabriela Dabrowski, encore une performance digne de mention.
Oui, victoire à Zhengzhou avec sa partenaire, rappelons-le, championne du US Open, Erin Routliffe, qui est canadienne de naissance, qui joue sur le drapeau australien maintenant. mais
néo-zélandais, je pense.
Néo-zélandais, pardon, à côté, néo-zélandais, je m'excuse. Et effectivement, bon, elles se sont qualifiées pour les finales de la WTA en double grâce à cette victoire-là hier, mais ça va, c'est une très, très grande saison pour notre Gabriela Dabrowski. Et encore une fois, toutes ces joueuses-là, ben, évidemment, on pense à Leila, on pense à Dabrowski, seront au final de la Coupe Billie Jean King, donc qui laisse entrevoir des belles choses aussi.
Hey, ça, c'est intéressant que tu en parles parce que ce sont effectivement des résultats qui disent, ben, tu sais, on en a parlé à quelques reprises dans les dernières semaines, particulièrement en se disant, ce serait le fun de voir les filles championnes du monde et on a certainement le potentiel avec une équipe en santé pour devenir championne du monde du côté des femmes. Ça, c'est sûr.
Oui.
Mais le double a tellement une grande importance. On a une des meilleures paires de doubles au monde. Je pense que c'est indéignable quand tu es championne du US Open. T'as une fille qui vient tout juste de remporter un titre, un troisième en 3 ans, qui est encore tout jeune et qui, visiblement, dans les derniers mois, a eu des résultats plus que probants. Écoute, c'est vraiment, vraiment encourageant pour la Coupe Billie Jean King.
Oui, oui, oui. On a une très belle équipe. Puis encore une fois, une composition étonnante, hein, sachant que Bianca est blessée en ce moment. On aura Eugénie Bouchard à la disposition du capitaine et on aura aussi Stakusic qui joue bien en ce moment. Donc, moi, j'ai bien hâte de voir cette équipe-là là, autour à la ronde finale de la Coupe Billie Jean King Cup dans quelques semaines.
Avant qu'on passe à l'entrevue de Jeanne Lapierre que j'ai pu réaliser la semaine passée, vous allez voir que la voix est pas mal moins cassante. Je veux que tu me parles de Félix Auger-Aliassime parce que bon, enfin, il a une victoire, mais est-ce qu'il pourra en enchaîner deux? Il a gagné ce matin son match contre Vukic. Ça a été compliqué, ça a été long, mais récemment, les matchs accrochés, il ne les gagne pas. Et là, ben, il y a peut-être ça de positif à prendre contre Vukic. Son prochain adversaire, c'est Hofner au deuxième tour. Mais bon, est-ce qu'il y a un peu de lumière au bout du tunnel pour Félix à Tokyo?
Écoute, quand j'ai vu le rythme du match, j'ai dit, ça y est, encore le même pattern. deux tie-breaks compliqués, premier set, deuxième set. Il se libère un peu au troisième pour finalement se sauver avec la victoire. Mais ça serait ce tournoi de Tokyo, qui est un ATP 500, serait peut-être le meilleur moment pour lui pour se relancer. C'est un tournoi qui est en indoors, premièrement. Ça lui plaît bien, évidemment, de jouer dans ces conditions-là. C'est un tableau relativement facile, je pèse toujours mes mots quand je dis ça.
Non, il est très prenable le tableau, oui, je suis d'accord avec toi.
On a Taylor Fritz comme premier favori et Casper Ruud comme deuxième dans la partie de tableau de Félix. Félix peut battre Casper Ruud. Je pense que ça serait un tournoi idéal pour se remettre sur la bonne route. Et enfin, une victoire, la première depuis le mois d'avril, là, donc où il passe le premier tour. C'est quand même encourageant.
Oui, il affronterait théoriquement Casper Ruud en quart de finale.
En quart de finale, exact.
Et ça, ouais. Ce serait intéressant ce match-up-là parce que c'est la comparaison qu'on a utilisée toute l'année avec Félix. Celle de Casper Ruud en disant, ben, en voilà un autre joueur dans le top 10 mondial qui a de la misère à gagner avec régularité. Il a eu quelques flashs, quelques meilleurs flashs que Félix ici et là dans la saison, mais il a perdu très souvent, rapidement dans les tournois, Casper Ruud. Alors, j'aimerais ça voir ce match-up-là entre deux joueurs d'une certaine manière qui se cherchent.
Oui.
Et puis, s'il fallait qu'il passe Casper Ruud, ben là, t'as quelques joueurs intéressants, dont Tommy Paul ou peut-être un Ben Shelton qui aurait dans les pattes en demi-finale. Mais il reste que, écoute, on va prendre le positif où il est. Une victoire pour Félix, c'est déjà ça, parce qu'il a perdu énormément ses premiers matchs.
Ouais.
Maintenant, s'il pouvait déjà en enchaîner deux, ce serait déjà pas si mal.
Moi, je souhaite surtout que le troisième set l'a libéré un peu. On sait que Félix, j'en ai souvent parlé quand il est sur une séquence, et Dieu sait qu'il n'y en a pas eu beaucoup cette année, qu'il n'y en a pas eu du tout, en fait, depuis l'Australie en début d'année. Ça commence à aller mieux. Et là, il gagne le troisième set 6-2 contre Vučić. Donc, il termine sur une note extrêmement favorable. Il y avait une séquence, un momentum à ce moment-là. Donc, espérons qu'il pourra amener ça dans son match de deuxième tour.
Exact. Je ne m'étirerai pas trop longtemps parce qu'on manque de temps un peu, mais juste rappeler aux gens qu'il y a un tournoi à Saguenay qui est dans notre cours et c'est toujours bien intéressant si vous êtes dans le coin de Saguenay, peut-être même dans le coin de Québec, c'est pas très loin, d'aller voir les meilleurs espoirs, ben, souvent les meilleurs espoirs, mais quand on regarde la qualité de jeu qu'il y avait à Granby, ben, ça va être une qualité de jeu similaire là, que vous allez retrouver au Saguenay. Abraham Santerre va être là pour couvrir le tournoi pour nous cette semaine. Oui. Vous allez voir des choses passer sur les médias sociaux et on l'invitera dans l'épisode la semaine prochaine pour parler plus en profondeur du déroulement du tournoi. Mais en attendant, si tu le veux bien, on va faire une courte pause. Et bien, au retour, entrevue avec Eugène Lapierre sur ses nouveaux terrains en Estrie.
Profitez d'un rabais de 30% sur votre deuxième nuitée dans une suite à l'Hôtel Montville. Une magnifique vue du centre-ville ainsi qu'un séjour mémorable vous y attendent. Rendez-vous sur hotelmontville.com pour avoir accès à cette offre. L'Hôtel Montville est le choix idéal pour les voyageurs d'affaires en raison de son emplacement central à Montréal, de ses chambres modernes et équipées de tout ce dont vous avez besoin pour combiner travail et loisirs. Profitez de l'offre petit-déjeuner et stationnement pour un séjour en toute tranquillité. Rendez-vous sur hotelmontville.com.
On en parlait la semaine passée dans l'épisode. Enfin, on en a fait mention de cette nouvelle à Waterloo où il y aura réaménagement de terrain de tennis. Et pour en parler, ben, on reçoit un homme qui nous a dit qu'il était occupé par plein de projets avec Tennis Canada. Ben, voilà un avec lequel il a été impliqué. Monsieur Eugène Lapierre, merci et bienvenue de vous joindre au podcast sur la ligne une fois de plus.
Merci, ça me fait plaisir.
Et là c'est ça. Là. La dernière fois qu'on s'est parlé, on se disait, semi-retraite, mais on est bien occupé. Et là, Waterloo, ben, c'est ça. Là. Peut-être nous résumer un peu ce qu'on a annoncé, la nouvelle officiellement, et c'est quoi l'intention derrière cette aide-là offerte par Tennis Canada?
Ben oui, ça fait déjà un moment qu'on dit que pour promouvoir la pratique du tennis, surtout auprès des jeunes, hein, et la demande est de plus en plus grande, de pratiquer le tennis à l'année longue. Et là, ben, c'est ça qu'on recherche, essayer d'avoir de plus en plus de terrains de tennis couverts, abordables, publics si possible, pour que plus de jeunes, plus de personnes puissent jouer au tennis à l'année longue. Et c'est ce projet qui a vu le jour là, à Waterloo. Et donc, on ouvrait cette semaine, quatre terrains de tennis couverts d'un dôme, donc d'une bulle, comme ça, qui ont été construits. Alors, c'est un projet de passionnés de là-bas, de Waterloo, qu'on a supporté, qu'on a appuyé financièrement Tennis Canada, avec l'aide de Rogers, faut-il le dire. Donc, c'est un programme qui est commandité par Rogers. Il y aura plein de choses à raconter là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de monde qui a travaillé très, très fort pour que ça arrive, ça, à Waterloo.
Ben, qui, justement, vous dit, bon, il y a beaucoup de choses à raconter. Qui, vous avez parlé de Rogers, de Tennis Canada, mais qui est impliqué dans ce projet-là?
Oui, d'abord, il faut comprendre qu'il y a un passionné de tennis là-bas, Norman Rushing, qui a pris ce dossier-là à bras-le-corps et qui a inlassablement qui a essayé de trouver les sous et les appuis possibles pour que ça vienne à jour. Alors, Norman a travaillé fort et il a eu la chance de tomber sur M. François Godbout, qui est une légende du tennis vivante au Québec, au Canada, ancien président de Tennis Canada, faut-il le dire, du conseil d'administration, joueur de Coupe Davis de longue date, qui s'est mesuré à des Rod Laver et compagnie dans sa carrière et ainsi de suite. Et François donc a pu appuyer le tennis, ce projet financièrement de façon importante pour que ça puisse voir le jour. La ville de Waterloo a aussi embarqué dans le projet. Desjardins, les caisses populaires Desjardins ont appuyé également. Alors tout ça mis ensemble, ça faisait qu'on était capable d'annoncer cette nouvelle cette semaine. Et moi, je me réjouissais vraiment de voir que notre sport vient réunir toutes sortes de passionnés et de gens qui veulent supporter que la ville de Waterloo appuie le projet, des intérêts privés comme Rogers, comme la Caisse Desjardins, des donateurs importants, la Fédération nationale et tout ça. C'est ce que ça va prendre pour que le tennis puisse continuer de progresser comme ça et offrir des terrains qui vont être abordables à l'année longue pour Monsieur Tout-le-Monde.
Ouais, parce que dans les 10 dernières années, Tennis Canada est comme devenu par défaut associé au tennis professionnel et au succès professionnel. C'est vraiment pas le mandat premier d'encadrer les joueurs professionnels et les joueurs sur le circuit ATP. C'est vraiment de promouvoir le tennis. Et ça, ben, c'est directement dans le mandat de Tennis Canada, ce genre d'initiative-là.
Tout à fait. Hein, ça fait assez longtemps, depuis toujours, en fait, qu'on essaie de démocratiser le tennis le plus possible. On va y arriver tranquillement, pas vite, mais il faut que la demande soit là. Et tu as bien raison de mentionner que la mission de Tennis Canada est de développer le sport. Et ce que les gens voient, c'est le tournoi d'importance des internationaux de tennis du Canada. Donc, le tournoi de la Banque nationale, mais c'est la pointe du iceberg. Le tournoi nous sert à ramasser des sous pour développer le sport. Et donc, c'est ce qu'on essaie de faire le reste de l'année. J'ai dit souvent que à Tennis Canada, notre travail commence le lundi après le tournoi. Hein, on a fait des sous et là, on va mettre des programmes en place pour populariser le sport, développer les jeunes, et ainsi de suite. Et c'est exactement ce qu'on fait avec ce programme, notamment.
Et pourquoi avoir choisi Waterloo spécifiquement? Bon, l'Estrie, d'une certaine manière, est devenue une espèce de plaque tournante là, du tennis, bon, entre autres, notamment avec le tournoi qu'il y a à Granby. Mais est-ce que c'est un concours de circonstances? Est-ce qu'il y a une population plus élevée de joueurs de tennis, entre guillemets, amateurs dans cette population-là, ou c'est vraiment plus des gens qui se sont rencontrés, qui étaient, bon, dans le même bout de pays, puis on a décidé de prendre en charge ce projet-là à Waterloo?
Et on va les faire où il y a de la demande, ce type de projet. On ne peut pas en faire tant que ça par année. Je pense que c'est 3 ou 4 par année à la grandeur du pays comme tel. Mais c'est les premiers qui ont levé la main et qui ont dit oui, on a les gens pour supporter un projet comme celui-là. Nous, on n'arrive pas avec tout le financement. Donc, il faut qu'il y en ait une grande part qui soit faite localement. Alors, mais j'espère que ça va servir de modèle et que d'autres endroits vont réagir aussi et faire la demande de dire, ben oui, nous, ça nous intéresse d'avoir des cours couverts à l'année longue et on va s'employer à le faire arriver. Puis nous, on va essayer d'aider ces endroits-là le plus possible.
Savez-vous, c'est le parc Jarry à appliquer?
On en a déjà 16 cours intérieurs, mais ça fait plusieurs années que je dis à la ville de Montréal, ah, vous pourriez en avoir 2 autres installations à Montréal. Et la demande est tellement forte que. Mais je travaille là-dessus.
Je blaguais évidemment. L'idée,
on va essayer d'y venir dans les prochaines années pour avoir plus d'endroits pour jouer au tennis à l'intérieur, partout, non seulement à Montréal, mais partout au Québec.
Un central, peut-être. Mais...
Ah, ben.
L'idée, là, c'est évidemment, je le dis à la blague, là. Mais le but derrière ça, c'était de partir une vague, finalement. On encourage, certaines régions, mais l'idée, c'est de peut-être demander à d'autres régions de lever la main, si je comprends bien.
Bien, certainement. Je pense qu'ils vont voir l'exemple que ça crée à Waterloo. Ce qu'on veut démontrer aussi, c'est que c'est possible de jouer au tennis à l'année longue de façon abordable et que pour les municipalités, ça ne sera pas un puits sans fond. Là, parce que le tennis, une fois que les installations sont montées, l'opération est très rentable.
Hein. Un autofinancement.
Alors, on peut facilement avoir un budget équilibré à la fin de l'année. Je pense que contrairement à une aréna ou une piscine ou des installations majeures en soccer ou tout ça, ben je pense que le tennis va s'occuper de lui-même. Il va être capable de présenter un budget équilibré à la fin de l'année. Alors, c'est ce qu'on va s'employer à démontrer aux municipalités.
Oui, c'est certainement moins coûteux, en tout cas, d'entretenir des terrains de tennis que d'entretenir une patinoire dans n'importe quelle aréna.
Ben, nous, on le croit et c'est un petit peu la démonstration qu'on veut faire. On va voir de quelle façon va se débrouiller là, les terrains à Waterloo, mais j'ai tout à fait confiance. Il y en a seulement 4, mais c'est bien suffisant pour répondre à la demande locale et faire en sorte que les choses arrivent là, en bout de ligne.
Et spécifiquement, bon, là, on a recouvert, mais est-ce qu'il y a eu d'autres modifications qui ont été faites? Ce sont quoi les améliorations là, qui ont été ajoutées à ces terrains-là?
Bien, écoutez, il y avait déjà un chalet de tennis avec quatre terrains extérieurs. Alors, c'est tout simplement ces quatre terrains-là qu'on a recouverts d'une bulle, qu'on va souhaiter vouloir enlever l'été pour pouvoir jouer à l'air libre en été, mais on verra. Il y a bien des endroits qui préfèrent même garder le dôme comme tel pour la pratique durant l'été parce que ça nous protège des intempéries, bien sûr, et ça protège un petit peu de la chaleur aussi à certaines. On verra si le choix là, du côté de Waterloo est d'enlever la bulle ou de la conserver pour la pratique confortable à l'année longue.
Et comment on fait pour appliquer sur ce programme-là? Est-ce qu'on doit passer par Tennis Canada? Mettons, un maire ou une ville nous écoute présentement, là, comment est-ce qu'on fait pour appliquer sur ce programme-là?
Ben, allez sur le site Internet de Tennis Canada. Vous trouverez les informations sur le programme des cours couverts comme tel. Et je pense qu'on trouve assez facilement le lien pour envoyer une demande et postuler pour ce programme.
Ben, écoutez, je trouve ça bien intéressant que Tennis Canada puisse aider la base comme ça. On en parlait en début d'entrevue. Ben, c'est le rôle principal de Tennis Canada. Et ben, félicitations à vous de piloter ce projet-là. Et je parle vous, l'équipe de Tennis Can. Eugène, je pourrais pas prendre 5 minutes avec toi sans te poser quelques questions de tennis. Écoute, toi, tu as joué. Tu as côtoyé des athlètes de haut niveau toute ta carrière. Je veux te parler rapidement de Félix. Comment il va faire pour s'en sortir? Qu'est-ce qui fonctionne pas présentement? Parce qu'on sait qu'il est tellement meilleur que les résultats qu'il a eu dans les derniers 6-7 mois, là.
Oui, ben, je pense que ça va prendre quelques victoires. Hein. On a vu le tennis masculin prendre une coche là, vraiment ces dernières années. Hein. Tu sais, quand il est sorti, Félix, on voyait sa puissance, notamment au coup droit, au service. Même s'il avait certains problèmes de régularité au service, ben, il a corrigé ça. Il servait comme une machine. Et ses coups droits étaient, son coup droit était probablement reconnu comme étant l'un des plus puissants sur le circuit. Mais là, tout à coup, il y a d'autres joueurs qui sont arrivés, Yannick Sinner, Holger Rune, Casper Ruud, des joueurs qui frappent la balle aussi fort, sinon plus que lui. Il doit s'aller, ben, Alcaraz notamment. Je me souviens d'avoir entendu il y a quelque temps que son match contre Alcaraz en début d'année 2023, qu'il avait battu l'année dernière, en Coupe Davis. Mais après ça, il a subi la défaite au début de l'année, je pense 6-4, 6-4, un match tout à fait raisonnable, mais ça l'a frappé. Il a dit, My God, ce gars-là, il frappe la balle comme il s'est dit, qu'est-ce que je dois faire pour continuer à jouer sur le même terrain? Alors, je pense qu'il ne doit pas se décourager. Il a le talent. J'ai vu quelques-uns de ses matchs dernièrement qu'il a
T'as
malheureusement
accroché.
perdu. Mais on dirait qu'il manque juste un petit bout de rien de finir un set, remporter la manche, remporter le match et tout ça. Ça devrait se mettre en place parce qu'il continue d'avoir un talent indéniable. Moi, je pense qu'il a sa place dans le top 10 mondial, mais il va falloir qu'il aligne quelques victoires là, pour lui redonner la confiance qu'il semble avoir perdue récemment. Alors, on ne lance pas la serviette loin de là. On va le voir encore de nombreuses années sur le circuit.
Ben, c'est ce que j'allais dire, là. Eugène Appiah reste encore très optimiste et loin d'avoir enlevé son drapeau de Félix Auger à Aliassime. Et puis, je pense également que, bon, tu sais, ça reste difficile. Le Big Three a faussé les attentes sur beaucoup de joueurs, là. C'est pas rare qu'on voit des joueurs qui ont des séquences comme ça. Tu sais, on en a parlé beaucoup à l'épisode. À un gars comme Casper Ruud, cette année, n'a pas connu une saison complètement phénoménale. Et c'est un gars qui est dans le top 5 mondial. Et lui aussi, il a perdu rapidement en début de tournoi. Alors, tu sais, faut garder ça en tête. C'est difficile de rester dans le top 10, peu importe le sport, peu importe le métier que vous faites, c'est pas évident.
C'est ça. Puis là, il ne faut pas qu'on parte en peur parce que là, il va baisser au classement. Veux pas. Dans les
Ben non, c'est
prochaines
sûr.
semaines, il va perdre une somme de points phénoménale. Il avait remporté trois tournois, finale d'un autre tournoi. Ça, c'était sa meilleure séquence à vie en tennis jusque-là. Quand je dis à vie, ça ne fait pas si longtemps que ça, là. Il y a encore 23 ans seulement. Alors donc, on va lui laisser le temps. Il va probablement descendre. Est-ce qu'il va sortir du top 20? Peut-être. On verra. Sinon, ben, il va peut-être prendre ces tournois-là pour se maintenir aussi, sait-on jamais. Fait qu'on va voir. Mais ça va y prendre quelques victoires. Le fait d'aligner quelques victoires là, pour reprendre le chemin de la victoire.
Ben Eugène, merci beaucoup d'être venu parler de ce projet-là des terrains à Waterloo au podcast. On essaie de se faire un devoir de parler aussi, nous aussi, un peu plus de la base et pas juste de ce qui se passe du côté des professionnels, surtout avec le cher Hugues Léger là, qui travaille à Tennis Montréal. Ben, ça fait partie de son mandat également et bien content de voir que ben faut pas baisser les bras dans le cas de Félix Auger-Aliassime, mais ça vient de l'expert, celui qui en a vu pas mal plus que d'autres là du tennis. Alors, merci beaucoup, Eugène, puis c'est toujours un plaisir de te parler, puis ben, écoute, on se dit à la prochaine.
Ça marche. Merci, Alexandre. Au
Merci,
revoir.
bye-bye.
Merci une fois de plus à Eugène Lapierre, et c'est le retour d'ailleurs de la voix cassée, en espérant que je vais encore avoir de la voix demain. Mon cher Hugues, c'est ce qui complète l'épisode. Comme Nicolas Richard n'est pas là, je veux te remercier, et comme c'est la tradition, ben, je vais te donner le mot de la fin.
J'ai envie de dire bon tennis, Félix. Continue sur ta lancée. Bon tennis, Alex. Bon tennis, tout le monde.